Merci Françoise et à la semaine prochaine pour d'autres couleurs du monde.
La musique, c'est vraiment une façon de vivre et pas quelque chose qu'on fait pendant les week-ends.
It's more than just something that you do on the weekend or as a part-time gig.
La musique, c'est pas seulement ce qu'on fait sur scène, c'est quelque chose à laquelle tu donnes ta vie, c'est comment tu es, comment tu vis et ce que tu fais.
It's what you are, it's how you live, it's the things that you do.
La Belle Pop, Vincent Théval.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver ce soir pour une émission spéciale entièrement consacrée au saxophoniste américain Colin Stetson, à l'occasion de la parution de son nouvel album « Sorrow ». Une relecture très impressionnante de la troisième symphonie du compositeur polonais Górecki. L'occasion d'évoquer avec lui ce projet un peu fou, mais aussi son parcours, sa discographie et son jeu si particulier qui vous a certainement marqué au fil des nombreuses collaborations avec des artistes aussi différents que Timber Timber, Arcade Fire ou Bon Iver. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h30 avec Colin Stetson sur France Musique. Lying on the Grass, un extrait du 10e album d'Animal Collective qui est paru fin février, un titre sur lequel on retrouve le saxophone de Colin Stetson qui est à mes côtés ce soir, secondé par Pascal Fougère à la traduction. Bonsoir.
Hello.
Alors un mot peut-être pour commencer sur cette collaboration avec Animal Collective.
No, it was one of the most recent things I've done.
They've not told me about the work they're doing. J'ai pris un avion jusqu'à Los Angeles et puis j'ai fait cet enregistrement avec eux, c'était super.
Vous êtes régulièrement invité à jouer par différents groupes, on peut citer Arcade Fire, Tom Waits, Bon Iver, TV on the Radio. Comment se déroulent ces collaborations? Est-ce que vous improvisez ou vous répondez à des demandes très précises?
Every situation is different.
Chaque situation est différente. Ça dépend du groupe.
For something like Animal Collective,
par exemple, Animal Collective, cet enregistrement, ils cherchaient en fait une section sur une chanson particulière. Et j'avais la liberté complète de faire ce que je pouvais faire. Donc j'ai commencé, comme vous disiez, à improviser. Je suis arrivée avec un certain nombre d'idées, en fait, qui avaient à voir avec mon approche.
All you really need to do is there's like a horn line, like des fois on sait qu'il y a un morceau de corps à un moment donné, donc on a cette approche là simple.
Alors ça dépend vraiment du groupe en fait.
So I try to kind of come at everything.
J'essaye en fait d'arriver comme ça de la manière la plus ouverte qui soit, d'écouter la chanson, le morceau, et puis de comprendre donc quels sont les besoins à l'intérieur. Parce que la dernière chose que j'ai envie de faire, d'une certaine manière, enfin, en tout cas la pire des choses qu'on puisse faire, c'est d'arriver sur un projet et puis d'essayer d'y mettre tout sur un projet qu'on n'a pas forcément besoin d'ailleurs. Donc c'est toujours différent. Quelquefois, on a très peu de choses en fait à donner, puis quelquefois, c'est beaucoup plus large. Mais c'est toujours en fait une approche créative qui est en avant, quel que ce soit de l'improvisation ou que ce soit donc remplir une demande particulière.
Vous êtes souvent associé à des artistes qui évoluent dans le champ du rock, on va dire, au sens large, mais qui ont aussi un pied dans la musique expérimentale ou la musique écrite, musique contemporaine. Je pense à des musiciens d'Arcade Fire, de The National, des gens comme Sarah Warden ou Sarah Neufeld. Selon vous, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait définir cette génération de musiciens dont vous faites partie, d'évoluer comme ça dans des champs assez différents?
Dans un sens, oui.
It has more to do with this past decade or two of media and how everything
décennies,
changed because the internet now being ubiquitous
de médias et comment tout a changé avec internet et numérique. Si on compare ma jeunesse dans les années 80-90, comment les gens écoutaient de la musique, comment ils découvraient la musique, on allait dans le magasin de disques et puis on écoutait un genre seulement, soit on s'intéressait au métal, au gothique, ou vous alliez dans un coin du magasin, puis vous écoutiez les groupes que vous connaissiez en fait. Et aujourd'hui, puisque tout est tellement facile en fait, vous pouvez accéder à tout ce que vous pourriez avoir envie d'écouter. Donc évidemment, ça a brouillé les frontières entre les différents genres et les choses se pollinisent en fait dans la musique pop, on va dire. C'est pas que les gens ont fait de la musique de manière plus créative aujourd'hui. Je pense que les gens ont toujours été très créatifs, mais je crois que c'est la manière dont cette musique-là a pu rentrer dans les courants les plus connus de la musique pop. Je pense qu'on n'est sans doute pas allé assez loin encore sur combien les gens peuvent écouter. Je suis déçu d'une certaine manière. Je pense qu'on peut tout écouter en fait dans l'histoire de la musique enregistrée n'importe quand. Les gens écoutent peu de choses, à mon avis, par rapport à ça. Donc j'espère que ça va continuer à s'étendre, ce que les gens écoutent.
Thank you.
Shara Warden de My Brightest Diamonds, invitée à poser sa voix sur l'album New History Warfare Volume 2 de Colin Stetson en 2011. Lord, I just can't keep from crying sometimes. C'est un traditionnel qui a notamment été interprété par Blind Willie Johnson dans les années 20. Du blues, donc. Colin Stetson, le blues, ça fait partie de vos influences musicales?
Yeah, among very many, I suppose.
Oui, parmi beaucoup d'autres.
I think specifically for the those three volumes, one, two, and three,
they kind of occurred during a point in my life where I was actually starting to get much more into American roots music, specifically pre-war gospel music,
traditionnelle américaine, particulièrement celle d'avant-garde et le gospel.
Those pieces, that piece, and
donc
then,
ce morceau-là,
et
What Are They Doing in Heaven Today, qui était un gospel qu'on a fait sur l'album volume 3 hein, de New History Warfare. C'était un genre en fait qui avait été tellement important en fait dans ma consommation musicale sur ces 10 dernières années en fait.
Quelles sont vos racines musicales? Ce qui vous a donné envie de faire de la musique et plus précisément du saxophone?
Didn't start out auspiciously in any way. It was I didn't come from a musical family.
Je ne venais pas d'une famille de musiciens.
Where we're from, you had a band program.
On avait en fait un groupe musical qui faisait des concerts à l'école, voilà, et puis donc vers la sixième, on devait choisir un instrument et puis on jouait dans ce groupe. Et donc, c'est le moment où j'ai choisi le saxophone. Et honnêtement, mon souvenir le plus ancien sur pourquoi je joue du saxophone, ça remonte à quand j'avais 5 ans, je crois, en fait. J'ai grandi dans la fin des années 70, les années 80, donc il y avait MTV, et donc avec mon frère le plus âgé, on regardait beaucoup la télé. Je me souviens d'avoir vu Men at Work, Who Can It Be Now, et avec un solo de sax. Hein, et donc, je me souviens de moi regardant la télé et me disant, quand j'aurai 9 ans, je vais jouer du sax. Hein. Et je pense qu'après ça, le saxophone, d'une certaine manière, est allé un peu plus loin que ce morceau-là. Mais c'est la première chose, en fait, dont je me souviens. Et voilà, j'avais des yeux vraiment pour ça. Voilà, j'étais prêt à partir. J'ai donc commencé à jouer quand j'avais 9 ans et puis j'ai continué.
Et vous avez suivi un cursus classique après?
I did, yeah.
Oui, tout à fait.
I started in the band program.
J'ai commencé donc avec ce petit orchestre. Donc j'ai commencé vraiment une éducation musicale à partir de 14 ans. Donc je travaillais avec quelqu'un en fait de l'université du Michigan où j'allais finalement aller et puis avoir mon diplôme. Mais donc pendant mes années de lycée, en fait, je faisais beaucoup de musique improvisée, du jazz. Et donc, cet apprentissage de la musique de manière classique, hein, il y avait beaucoup de concours. Mais en dehors de cette formation musicale classique, je jouais un peu déjà tous les genres.
Il y a un aspect très, très physique, très technique aussi dans votre pratique du saxophone. La respiration circulaire, le fait de chanter dans votre instrument sont des choses que vous avez mis longtemps à maîtriser.
Everything. Yeah, I mean, it's all a work in progress. I mean,
c'est toujours quelque chose qui est encore en développement d'une certaine manière. C'est pas quelque chose que j'ai découvert. J'ai appris à l'âge de 15 ans la respiration circulaire. Mon prof me l'avait apprise. Donc il m'avait dit, voilà, je viens d'apprendre ça. J'ai 26 ans. Ça m'a mis vraiment très, très longtemps avant d'acquérir ça. Toi, t'as 15 ans. Mets-toi-y tout de suite. Et il avait raison parce que c'est vrai que tout est plus facile quand on a
15 ans. Et si seulement on comprenait vraiment ça quand on a 15 ans, on ferait tout à cet âge-là. Et donc, en une après-midi, j'ai appris cette respiration circulaire. Hein, et puis ensuite, c'est la question, c'est comment vous allez l'utiliser. Hein. Donc ça m'a d'une certaine manière mis sur un espèce de chemin pour travailler une technique et puis également une technique d'arpège avec un mouvement extrêmement répétitif de la main que j'utilise encore aujourd'hui. Hein. Mais ce que je fais, voilà, aujourd'hui, avec cette manière de jouer, j'arrivais pas à le faire il y a 5 ans, alors il y a 25 ans, vous imaginez. Donc, c'est quelque chose qui a à voir vraiment avec la capacité, en fait, qu'a votre corps de supporter ce que vous lui demandez, hein, cette espèce, ces espèces de mauvais traitements. Voilà, il y a peut-être que j'ai longtemps joué, en fait, pendant des décennies, un répertoire qui était assez standard, en retournant vers des gens comme King Curtis, musiciens de rock des premières années, hein, où on utilise en fait ce chant guttural avec cette structure comme ça très proche du grognement. Et voilà, la personne qui utilisait ça de manière mélodique, c'est quelqu'un qui s'appelait Dewey Redman. Et il utilisait en fait cette manière de vocaliser avec le son de son sax ténor. Et voilà, tout d'un coup, il y a eu un déclic et on se dit, voilà, il y a une technique et vous séparez les deux entités pour comprendre comment les deux choses, hein, le chant et le sax interagissent. Hein, et donc, il y a toutes en fait ces techniques qui peuvent venir et puis tout se passe comme ça. Hein. Ça fait 25 ans, enfin plutôt 30 ans, plus de 30 ans que je joue, mais ça fait 25 ans vraiment que je travaille sur un jeu comme le mien et qui s'est développé donc de manière extrêmement graduelle et j'espère qu'il se développe encore. Hein, voilà.
There were those who didn't run. There were those who couldn't take it. There were those who stayed in the city. What was it? Where did it go? There were those who laid their bodies down. There were those who took out knives. There were those who kissed the gray skies. There were those who knew only the sound of their own voices. There were those who knew the rules. There were those who freed their bodies. There were those who couldn't take it. There were others on their own. What was it? What was it? There were strangers and con men. There were those who lived in the crawl space. There were people lighting candles. There were people going crazy. There were those who walked the beach. But war is that. What town could this be? There were those who didn't run. There were those who couldn't take it. There were those who stayed in the city. What was it? Where did it go? There were those who laid their bodies down. There were those who took out knives. There were those who kissed the gray skies. There were those who knew only the sound of their own voices. There were those who knew the rules. There were those who freed their bodies. There were those who couldn't take it. There were others on their own. What was it? What was it? There were strangers and con men. There were those who lived in the crawl space. campus, there were people going crazy. There were those who walked the beach. But what was that? But what was that? What town could this be?
Vous écoutez La Belle Pop sur France Musique, à l'instant la voix de Laurie Anderson sur cet extrait de l'album New History Warfare Volume 2 du saxophoniste américain Colin Stetson qui est à mes côtés. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cette trilogie, ces trois volumes de New History Warfare que vous avez publiés en 2007, 2011 et 2013. Il y a une histoire qui est filée sur ces disques. De quoi ça parle ?
There's a few layers for me. Sur comment je pense aux choses,
sur la manière dont je fais la musique et la manière dont j'ai fait ces trois albums particulièrement. Il y a des thèmes en fait qui se superposent. Quand j'ai commencé donc ce projet, le volume 1, je voulais raconter l'histoire. J'avais un peu l'impression que j'étais en train d'essayer de créer une capsule temporale, quelque chose qui allait flotter et qui serait redécouverte dans des centaines d'années par quelqu'un d'autre et qui raconterait l'histoire de personnes oubliées, l'histoire de temps révolu. Et c'était quelque chose donc, qui était à l'écart, qui avait été conservé. Donc le premier volume, c'est l'histoire de ce peuple qui subit une perte, il quitte l'endroit où ils vivent, mais en tout cas c'est comment tous ces gens qui vivaient ensemble deviennent des solitaires. Donc ça, c'est le volume 1. Le volume 2, c'est une perspective d'une des personnes découvrir un nouveau lieu de vie et faire que ça prenne sens. Et le volume 3, c'est un mélange, en fait.
Si
on parle d'une base narrative, je pourrais continuer pendant très, très longtemps à raconter une histoire. Il y a effectivement une histoire que j'ai écrite et sur laquelle j'écris encore, et peut-être qu'un jour, je vais publier un livre et ça sera un roman graphique, mais qui raconte l'histoire en fait d'une personne en particulier qui vient d'un endroit donné, des gens qui vivaient sur un espèce de bateau de croisière, ou comme une espèce de communauté de personnes ont vécu sur ce bateau, des gens qui n'ont jamais vu la terre en fait. Et donc c'est peut-être une histoire qui a un caractère un peu comme ça, mythique, et puis on revisite les mythes de ces gens-là. Et puis il y a effectivement une tempête, et puis il y a un naufrage, et cette personne donc qui vivait sur ce bateau se retrouve sur une île, sur la terre ferme. Et je vais peut-être m'arrêter de vous raconter cette histoire, mais c'était pour vous donner un peu de contexte. Il y a effectivement différents niveaux. C'est en tout cas cette histoire que j'ai prise pour prendre, on va dire, cette espèce de flux qui pouvait se retrouver dans les chansons et donc les nourrir pour arriver à penser de manière visuelle, pour penser de manière cinématographique, penser en images. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire, en fait, les disques les uns après les autres. Quand je travaille sur un disque, j'écris pas des chansons et puis j'essaye pas de les mettre les unes avec les autres. J'essaye moi d'écrire des chansons dans une structure qui est préétablie. Par exemple, actuellement, je travaille sur quelque chose et la première en fait chose sur laquelle je commence à travailler, c'est travailler sur la structure. Par exemple, pour ces albums, la première chanson que j'avais écrite, c'est effectivement la première piste du disque, qui est assez longue. Et ensuite, quelque part, dans ma tête, je vois comment ça va se développer jusqu'à, effectivement, la fin, le dénouement, quelque part. Et donc, je prends tous ces thèmes et puis graduellement, je remplis en fait cette structure, ce squelette. C'est comme ça que je travaille en fait.
On va écouter un extrait du New History Warfare volume 3, cette fois-ci un morceau avec Justin Vernon de Bon Iver, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup travaillé. Thank you. écoutez la belle pop sur France Musique. À l'instant, un extrait de l'album Never Were The Way She Was, paru l'année dernière. Une collaboration entre le saxophoniste Colin Stetson, qui est avec moi ce soir, et la violoniste Sarah Neufeld. Alors Sarah Neufeld, elle est présente sur ce nouvel album qui vient de paraître, Sorrow, une relecture de la symphonie numéro 3 de Gorecki. C'est une œuvre composée en 77, qui a connu un immense succès un peu plus tard à sa publication sous le label Elektra, Nonesuch Records, en 92. Comment sont venues l'idée et l'envie de s'attaquer à une telle œuvre?
J'ai décidé que j'avais envie de faire quelque chose comme ça la première fois que j'ai entendu le disque. Hein, je crois que c'était en 93, en fait, 93-94. Voilà, j'étais à l'université dans mon année sophomore, comme on dit.
Très
souvent, en fait, que j'écoute un morceau de quelqu'un d'autre et que je me sens complètement absorbée avec cette espèce de besoin de le jouer, peut-être de l'enregistrer. C'est la première fois d'ailleurs que je fais ça. Alors j'ai décidé, au milieu des années 90, je me suis dit, mais j'ai commencé à écouter cette musique, en fait, dans le contexte de ma propre musique, en réfléchissant à des instrumentations différentes. Ma sœur est chanteuse d'opéra, elle est mezzo, et on a commencé à parler de ce que ça serait pour elle de chanter cette symphonie, comme une mezzo, et elle a une gamme très, très, très impressionnante. Ce qui correspond bien d'ailleurs à l'étendue de la pièce. Et donc, plus de 15 ans après, finalement, ces toutes dernières années, tout a commencé à se mettre en place, en fait, par rapport aux autres musiciens qui sont impliqués dans le projet, parce que tous ces gens qui ont travaillé sur Sorrow, c'est des gens que je connais depuis longtemps, qui sont d'excellents musiciens avec lesquels j'ai déjà fait des collaborations tout à fait satisfaisantes, qui sont d'ailleurs des amis. Et voilà, tout d'un coup, ça s'est mis en place.
Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette symphonie?
That's a tough one to try to encapsulate.
Alors c'est difficile de répondre de manière brève à cette question. Je pense que si on veut résumer ce morceau.
It's able to portray
est un des rares morceaux qui
that confluence of ultimate like the of our complete sadness and joy. The joy is the wrong word, but you know that kind of
a donné that kind of human un portrait de ce que peut être la tristesse et la joie, cette espèce de décharge et donc de soulagement que vous pouvez avoir pour une tristesse très profonde. C'est quelque chose qui m'a. On n'a pas de mots qui écrit ça très précisément en anglais, mais c'est quelque chose, ce sentiment m'a toujours attiré, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la révélation dans la profondeur de l'émotion humaine et dans notre capacité à ressentir. Et c'est un morceau, ce morceau de Gorecki, qui m'a toujours fait ressentir ça, comme d'ailleurs les morceaux de Tom Waits. Il y a quelques artistes comme ça qui me font ressentir quelque chose qui vient, bien sûr, je pense, de leur expérience de vie et qu'ils ont réussi à montrer dans leur musique et dans leur travail.
Alors, on va écouter le deuxième mouvement de cette symphonie numéro 3 de Gorecki, réarrangée par Colin Stetson, 10 minutes ample et poignante.
Thank you.
Le deuxième mouvement de la symphonie numéro 3 de Gorecki, réinterprété par Colin Stetson. Quelle a été votre méthode de travail et quelle liberté avez-vous prise avec l'œuvre ? Deux questions en une.
I certainly didn't impose any specific sanctions or parameters on myself with regard to this score.
Je ne suis rien imposé par rapport à la partition.
Je
n'ai pas ressenti le besoin de changer quoi que ce soit. Je n'ai pas altéré la composition d'origine. Toute personne qui connaît la symphonie d'origine entendra que tout y est. Il y a quelques moments où j'ai introduit des changements en termes d'arrangement, de dynamique qui change un peu la structure en allongeant certaines sections pour amener des improvisations à texture particulière. Mais ce que j'ai fait principalement, c'était amener une altération drastique en termes d'instrumentation. C'est des petites additions, par exemple, donc de percussions, des solos de moi avec ma technique particulière de saxophone sur certains mouvements et en les intégrant au lieu d'utiliser un orchestre, même si j'utilise quelques cordes, la majeure partie du groupe, c'est des guitares électriques, des synthétiseurs, des vents avec des saxophones. C'est une mezzo qui a la partition principale en chant, ce qui est différent d'un travail avec une soprano, et je pense que ça correspond mieux à la sonorité de l'instrumentation que j'ai imaginée pour cette symphonie. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Merci beaucoup, Colin Stetson, d'être passé dans La Belle Pomme. Je rappelle que votre nouvel album Sorrow vient de paraître et que vous serez sur scène à Paris, mais avec Sarah Neufeld. Ce sera le 3 juillet à la Philharmonie dans le cadre du festival Days Off.
Yes, thank you.
Au générique de l'émission ce soir, Bruno Rioux-Maillard à la réalisation, Philippe Palares à la technique, Pascal Fougère à la traduction et Jean-René Bonissant pour le site. Merci à toute l'équipe et rendez-vous dimanche prochain.